Je ne compte pas les expérimentateurs qui ont cherché à apprendre aux singes et aux chiens à parler. Mais oui, je dis bien aux chiens à parler. Il y aura des quantités, mais ça n'a jamais marché. Bien cela, ça montre, je crois, qu'il y a certains mécanismes de la nature que nous ignorons profondément. Et nous les ignorons parce que la science est trop jeune, simplement.
On en sait beaucoup plus sur le monde animal depuis cette interview du professeur Rémi Chauvin en 1962. Mais il y a un domaine qui reste bien mystérieux. Comment pensent les animaux? Beaucoup d'entre nous aimeraient pouvoir répondre à cette question. Beaucoup de chercheurs aussi, comme Loïc Bolache, naturaliste et professeur d'écologie à Dijon. Sa spécialité, les relations entre les organismes et leur environnement. Loïc Bolache aime parler des intelligences animales, celles des mammifères, des oiseaux, des poissons. Il raconte que grâce aux travaux des chercheurs, on sait que les bourdons savent tirer sur des cordelettes pour récupérer de la nourriture, ou que les loups sont capables de se consoler, comme les corbeaux d'ailleurs. Grâce aux dernières découvertes scientifiques, on commence à pénétrer dans l'intimité des animaux. L'intelligence animale est enfin un sujet dans l'air du temps.
Les aventuriers sur France Inter.
Loïc Bolache, quand on parle d'intelligence animale, on devrait plutôt parler des intelligences animales et tout le monde est d'accord sur ce sujet aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, tout le monde est d'accord, mais ce n'a pas toujours été le cas. Et c'est intéressant de faire le parallèle avec l'intelligence humaine, puisque la manière de découvrir en fait les intelligences multiples animales, ça a été de passer en fait par l'humain. Et entre autres par une idée un peu originale, c'est les personnes qui ont étudié ce qu'on appelle les idiots savants. Donc ces fameuses en fait personnes qui ont des incapacités dans la vie sociale ou des personnes que l'on dirait simples d'esprit, mais qui ont des facultés extraordinaires de mémoire, de calcul, d'émotion, qui pouvaient apprendre des langues, la musique facilement. Et on s'est aperçu que l'intelligence était multiple chez les humains. Et donc du coup, on s'est dit, mais est-ce que l'intelligence n'est pas multiple chez les animaux aussi?
Ça a commencé quand, cette idée d'étudier l'intelligence des animaux?
Alors l'intelligence des animaux, ça a commencé au moment où on a étudié réellement les animaux. Je pense que les premiers naturalistes étaient convaincus. Ils l'ont pas formulé, il n'y avait pas de théorie sur l'intelligence animale, mais ils ont collectionné un nombre d'observations incroyables sur les intelligences animales. Et notre auteur de référence, Darwin, parle d'intelligence animale, parle de degré d'intelligence entre l'homme et l'animal, et dès l'époque de Darwin, on est déjà sensibilisé à l'intelligence animale.
Aujourd'hui, on a le sentiment que le regard qu'on porte sur les animaux est en train de changer presque de façon radicale, en tout cas dans les pays occidentaux. Est-ce que c'est dû au progrès technologique? Est-ce que c'est dû aux nouvelles façons d'étudier les animaux?
C'est à mon avis un ensemble de paramètres. Certainement que nos découvertes, les découvertes assez récentes, on va dire depuis une trentaine d'années, sur les intelligences et sur la sensibilité, la douleur chez les animaux, la souffrance. Et
on a l'émotion.
Les émotions, voilà, on a des preuves en fait animales évidentes maintenant. Et puis un deuxième paramètre important, c'est naturellement les réseaux sociaux, l'époque où aujourd'hui l'image est primordiale dans notre communication entre humains. Et on montre en fait des animaux qui souffrent et ça devient insupportable pour nous.
Vous qui vous intéressez à l'intelligence animale, est-ce qu'il y a un exemple qu'on pourrait donner? Un exemple qui montrerait que notre regard a changé?
Alors, je pense à une chose assez originale qu'on a découverte avec un de mes étudiants, Nicolas Kaldonski, qui est aujourd'hui maître de conférence à Marseille. À l'époque, il était en master avec moi, on travaillait sur la prédation d'une petite crevette par des truites. Des choses assez simples, hein, un peu éloignées quand même de l'intelligence animale. Mais on a remarqué que les truites avaient du mal à manger une espèce de crevette, qu'on appelle Gammarus roseli, qui a des petits piquants sur le dos. Mais la réaction des truites était vraiment très forte. Elles ouvraient la bouche, elles essayaient de capturer la crevette qui fait à peine un centimètre, et elles avaient un mouvement de recul très net, comme si elles se piquaient. Et quand on a présenté ces travaux lors d'un colloque en Angleterre, on a croisé une chercheuse anglaise qui travaillait sur la douleur chez les truites, et qui a été surprise, et agréablement surprise, parce qu'elle venait de démontrer, elle, qu'il y avait des signaux de douleur chez les poissons, et nous, on lui montrait expérimentalement, avec des vidéos, la douleur, le phénomène de douleur, et on voyait à l'œuvre la truite avoir mal, et ça conduit, entre autres, les Anglais à réfléchir sur, par exemple, est-ce qu'on doit utiliser des hameçons pour la pêche, parce que ça fait souffrir l'animal, et comment on peut pêcher sans faire souffrir, par exemple.
Donc c'est nouveau, ça, que les poissons éprouvent de la douleur, c'est nouveau?
Alors, ça date maintenant depuis.
Enfin, l'idée que les poissons éprouvent de la douleur.
C'est ça, ça date depuis maintenant une dizaine d'années, mais on progresse et je pense qu'on découvre de la douleur en fait chez quasiment tous les êtres vivants.
Au XVIIIe siècle, on parlait de l'animal-machine. Au XXe siècle, les animaux étaient encore considérés comme des choses qui ne souffraient pas beaucoup, ou en tout cas, on ne s'en préoccupait pas. À partir de quand est-ce que le regard qu'on porte sur les animaux, à partir de quand ça a commencé à changer? Est-ce que c'est à partir du moment où on a parlé d'éthologie?
Alors certainement, mais l'éthologie, ça reste une discipline académique, réservé à des personnes initiées qui comprennent en fait qui comprennent l'intelligence, qui savent décoder les signaux des animaux. Je pense que je serais un peu moins peut-être optimiste. On a conscience de la souffrance animale, on a conscience de leurs émotions, mais on est encore très loin malgré tout d'avoir une acceptation sociétale complète. Je pense que pour beaucoup de personnes, ça reste encore quelque chose qui est l'animal est quelque chose que l'on peut utiliser à sa guise pour les besoins de l'humain. Et en tout cas pour les sociétés occidentales, ce qui n'est pas toujours le cas de toutes les cultures.
Voilà pourquoi il y a encore tant d'élevages intensifs.
Alors on vit dans une hypocrisie énorme, puisque effectivement il y a beaucoup d'élevages intensifs. On les cache, on ne veut pas montrer aux personnes en fait la souffrance animale, que ce soit les oiseaux, les mammifères. Et si on écoute Jocelyne Porcher, une directrice de l'INRA qui travaille beaucoup sur les conditions d'élevage, elle a un discours très intéressant sur l'acceptation de l'élevage. On peut élever les animaux à partir du moment où on respecte le vivant.
Alors, vous avez cité Darwin tout à l'heure, mais il y a d'autres noms qui ont compté et qui nous permettent de considérer les animaux différemment.
Alors, entre Darwin et aujourd'hui, il y a un grand nombre de chercheurs qui se sont succédés. Et il y a naturellement un trio, les trios d'éthologues prix Nobel de médecine, hein, Nico Steenbergen, Konrad Lorenz et puis Carl von Frisch, le découvreur de la danse des abeilles. Et ces trois personnes vont en fait faire entrer l'éthologie dans un respect au niveau de la biologie qui est aujourd'hui reconnu et qui est important pour l'évolution de cette discipline.
Quelques mots sur Konrad Lorenz.
Konrad Lorenz, c'est la personne qui a découvert l'empreinte en fait chez les animaux. Tout le monde le connaît à cette image de Konrad Lorenz se plonger dans un étang avec la tête qui sort de l'eau et des oies en fait de chaque côté de sa tête en train de lui tirer les cheveux. Il a montré en fait que les animaux pouvaient apprendre, avaient une empreinte à la naissance et que l'animal, l'oisillon qui sortait de son œuf, reconnaissait le premier individu comme ses parents.
Est-ce que ça vous plairait d'entendre sa voix?
Ah oui.
À quoi pensent les animaux? C'était une émission de télévision qui a été diffusée en 1964. Le journaliste s'appelait Robert Clark et il a rencontré Konrad Lorenz.
Le commencement de l'étude d'un comportement d'une espèce, c'est toujours l'étude de l'organisme et son comportement entier dans l'environnement naturel. Les méthodes biologiques ne sont pas assez familières à la plupart des psychologues. La psychologie est en train d'apprendre la biologie.
Bon, alors je crois qu'il faudrait que vous nous expliquiez maintenant ce qu'est l'éthologie, ce qu'est votre méthode d'étude.
Alors, je dirais tout simplement que c'est l'application des méthodes, la méthode de recherche biologique au comportement.
C'était en 1964 et on parlait déjà de psychologie animale.
Oui, on parle de psychologie animale et ce que j'adore dans cet extrait, c'est le fait que Konrad Lorenz souligne l'importance d'étudier l'animal dans son environnement, dans la nature.
Et ça, il insiste dessus.
Oui, il insiste beaucoup parce que c'est un pas décisif entre le moment où on va quitter le laboratoire. Si on se rappelle par exemple des travaux de Skinner avec sa fameuse boîte de Skinner où il mettait des rats dans une boîte, ou Tolman avec des boîtes à problèmes ou des personnes qui donc ont travaillé uniquement dans des laboratoires, ils ont pu découvrir des choses intéressantes chez les animaux. Mais lorsque l'on va se mettre à étudier l'animal dans son environnement, on va voir apparaître des nouveaux comportements qu'on avait totalement ignorés. Et Konrad Lorenz est un exemple flagrant de ça.
Loïc Bollage, qu'est-ce qui permet aujourd'hui d'étudier l'intelligence des animaux? Il y a de multiples méthodes, y compris des IRM.
Alors, On peut soit utiliser des méthodes très pointues comme des IRM ou des technologies très pointues qui nous permettent effectivement d'observer quelle partie du cerveau va être sollicitée par tel ou tel comportement. Mais on a malgré tout, on ne peut toujours pas travailler sans comprendre et sans observer l'animal dans son environnement. Si on reprend les travaux des primatologues, et je pense aux primatologues japonais qui ont commencé à travailler sur les macaques du Japon, ils ont inventé la primatologie moderne en suivant un groupe d'individus, de macaques, en suivant chaque individu et toutes les interactions de tous les individus entre eux. Et c'est uniquement dans ces conditions qu'ils vont pouvoir comprendre l'évolution de la société des macaques avec des observations qui durent depuis 50 ans. Et donc, on peut naturellement mettre un animal en laboratoire, mais je vous donnerai juste un exemple. Quand on travaille sur des animaux comme les rats ou d'autres animaux, qui sont généralement des animaux sociaux, on les étudie en laboratoire tout seul. Pourtant, ce sont des organismes sociaux. Donc, quel est l'intérêt, par moment, d'étudier un organisme social tout seul? Voilà, ça pose question.
Pour en revenir à ces macaques, ce sont ces chercheurs japonais qui ont découvert que les macaques lavaient les patates?
Alors, ce sont les chercheurs japonais qui ont découvert cela. Ils lavent les patates, ils trient les grains de blé en les jetant dans l'eau. Ils ont découvert ça par inadvertance. Et ils ne travaillaient pas du tout sur ce sujet-là. Ils travaillaient sur la société des macaques. Mais en nourrissant les macaques, les japonais ont inventé cette technique de nourrir en fait les primates de manière à pouvoir les approcher facilement. Il y a des patates qui sont tombées dans le sable. Elles étaient donc souillées par de la terre ou du sable. Les singes ne trouvaient pas ça très agréable à manger. Et un singe, une jeune femelle IMO d'un an et demi, a eu l'idée. Elle a innové, elle a eu l'idée de plonger la patate dans l'eau, de la laver et de la manger. Alors, est-ce qu'elle a observé une patate glisser jusque dans l'eau, elle l'a récupérée dans l'eau, elle a trouvé ça meilleur parce qu'il n'y a plus de sable, ou est-ce que d'elle-même, délibérément, elle a mis la patate dans l'eau? En tout cas, elle a fait le lien entre l'eau, ça lave ma patate, c'est meilleur, et elle l'a appris à ses partenaires.
Et c'est ce qui est fabuleux, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu une pratique courante chez les macaques, de cette île en particulier.
Alors, c'est devenu une pratique courante, mais si on étudie très très finement, et c'est là où l'observation très fine des chercheurs sur des longues périodes, on s'aperçoit qu'il y a une forme de généalogie de l'apprentissage. Par exemple, au sein de la même troupe de macaques, certaines familles apprennent moins facilement que d'autres. Il y a des groupes qui apprennent, il y a une famille, une lignée qui apprend très facilement, et une femelle a plus de mal à apprendre, et elle apprend plus difficilement à ses enfants. C'est un peu comme s'il y avait dans une société de macaques des individus résistants à l'innovation, plus conservateurs et d'autres plus innovants.
J'ai une question encore sur l'intelligence des animaux. Qu'est-ce que vous pensez du regard que Jean de La Fontaine portait sur les animaux?
C'est l'opposé du rationalisme. Il va utiliser l'intelligence animale, les traits des animaux, ce bestiaire qu'il va pouvoir modeler pour pouvoir faire passer des messages à la société humaine. Et il va attribuer des traits aux animaux. Alors certains traits sont caricaturaux, hein. Le renard est rusé par exemple, et le corbeau est bête. On sait bien aujourd'hui que le corbeau ne ferait pas tomber son fromage comme cela. Mais il était par contre persuadé que les animaux étaient extrêmement intelligents, et il va avoir des réponses sévères par rapport aux personnes qui pensent que l'animal n'est qu'une machine.
C'était cool, ben.
écoutez Cool Cat, c'était Juliette Armanet.
Les aventuriers sur France Inter.
Depuis Descartes, la philosophie a redonné une âme aux animaux. La science a prouvé leurs émotions et la justice commence à leur accorder des droits. Même si les animaux restent mystérieux sous de nombreux aspects, à commencer par leur langage.
La plupart des animaux sociaux qui ont besoin de communiquer ont certainement un langage. Et il est important ici de préciser que, en éthologie, on va s'intéresser au langage sous deux formes. Une forme qui est presque une forme de syntaxe, comme si on s'intéressait au langage humain. Donc en fait, l'élaboration des sons, des signaux utilisés par l'individu. Et puis, son aspect fonctionnel, qu'on utilise plus en écologie, c'est-à-dire à quoi sert le langage. Et le langage, ça sert en fait à communiquer, à se transmettre une information. On a un récepteur et puis un donneur, un émetteur et un récepteur. Et il faut comprendre comment ça se passe. Et ce qui est intéressant avec le langage chez les animaux, c'est qu'on va devoir imaginer des formes de langage qui n'existent pas chez l'humain.
Y compris chez des animaux qui sont tout petits.
Tout petits, voilà. Je pense que vous pensez à Carl von Frisch avec ses abeilles.
Absolument. Racontez-nous cette histoire.
Alors Carl von Frisch est un chercheur allemand qui est passionné par deux modèles biologiques, les abeilles et les vairons, un petit poisson. Et il travaille sur la couleur chez ces animaux, pas du tout sur le langage. Mais en observant ces abeilles, il va s'apercevoir qu'elles vont avoir des comportements curieux lors de certaines de ses expériences. Il les fait reconnaître des couleurs, du bleu, du jaune ou autre. Mais quand il voit une abeille revenir à la ruche, elle tourne, elle commence à faire une danse un peu particulière, des mouvements particuliers. Et puis, quand il observe une abeille, sur une petite coupelle jaune, elle part vite à la ruche. Et 10 secondes après, ou une minute après, il voit 50 abeilles arriver.
Toutes les copines suivent
et il se pose une question toute bête à un moment donné. Il se dit, mais est-ce que les abeilles ont un mot pour dire éloignement, puisqu'il met une coupelle très très loin de la ruche et les abeilles viennent directement dessus. Et il se dit, mais comment elles font pour communiquer?
Et comment font-elles pour communiquer?
Alors, voilà, Carl von Frisch, il va étudier, comme l'avait imaginé Konrad Lorenz, les abeilles dans la nature. Pour reconnaître des abeilles parmi les abeilles, il leur fait un petit point de couleur sur le dos. Et puis, il va suivre en fait des abeilles. Donc, par exemple, il met une coupelle à 100 mètres de distance de la ruche. Il voit une abeille arriver. Il la prend, il lui met un petit point de couleur, il la laisse repartir, il va vite à la ruche voir ce qu'elle fait. Et quand l'abeille rentre dans la ruche, il l'observe en fait, son manège, il décrit finement son manège. Et les abeilles ont une suite de cercles dans un sens, à droite ou à gauche, ou une suite de 8 qui leur permet en fait d'indiquer à leur congénère la direction et la distance de la nourriture.
Ces recherches datent de la fin des années 50, je crois.
C'est ça, de la fin des années 50.
Et en 1962, on en parlait à la télévision dans une émission qui s'est appelée tout simplement « Le secret de la danse des abeilles ».
Grâce à des sujets reconnaissables par une marque et un point blanc, à l'aide d'un rapporteur et d'un chronomètre, le professeur autrichien a révélé le secret de la danse des abeilles. L'abeille qui a rencontré quelques sources de nourriture sucrée, une provende, revient en informer ses consoeurs, sa danse indiquant exactement par son sens et le nombre d'évolutions effectuées la direction précise qu'elles doivent prendre et la distance à parcourir pour gagner le lieu de ravitaillement. Nous sommes déjà bien loin de Pavlov.
Eh oui, on est bien loin de Pavlov.
C'est ça, on est bien loin de simples réflexes.
Il semblerait que chaque espèce d'abeille a son dialecte. Est-ce que c'est vrai?
Alors c'est vrai, on a découvert que si on prenait des groupes d'abeilles d'origine différente géographique, ou ce qu'on pourrait appeler des races d'abeilles, ou des sous-espèces d'abeilles, on va s'apercevoir qu'elles vont frétiller à une certaine fréquence, elles vont tourner à une certaine vitesse, mais que ça n'a pas la même signification. Pour une abeille française, une certaine vitesse de frétillement dira que la source de nourriture est à 100 mètres, alors que pour celle, pour notre abeille belge, elle va lui dire que c'est 500 mètres, ou l'abeille italienne 600 mètres.
Non.
Donc, elles ont un dialecte, voilà, une petite différence.
Est-ce que les recherches se poursuivent dans ce domaine?
Les recherches se poursuivent et les danses qui ont été découvertes chez les abeilles, juste après Carl von Frisch, c'est un de ses anciens étudiants qui a découvert la danse de l'essaim, une danse très similaire qui permet à l'essaim de trouver le meilleur site pour fonder la nouvelle ruche. Et puis il y a les danses liées à la démocratie des abeilles, comment une abeille prend une décision en fait, comment les abeilles prennent des décisions collectives pour trouver la meilleure ruche. Et on continue encore aujourd'hui à travailler sur cette danse des abeilles.
De nombreux animaux sociaux ont donc un langage. Est-ce que vous pouvez nous parler du langage des singes? Parce que chaque espèce de singe a aussi son langage.
Chez les singes, ça nous intéresse naturellement particulièrement, puisque c'est un primate comme nous, donc on se rapproche de l'humain. Les études chez des sarcopithèques en Afrique ont montré que les singes pouvaient être capables d'utiliser différents sons, de les associer pour former des phrases ou ce qu'on appelle un proto-langage. Et les singes peuvent associer 7, 8, 9 sons pour indiquer la direction et la présence d'un danger, pour dire par exemple, attention, voilà un aigle dans le ciel, attention, il y a un léopard au sol, ou alors tout simplement dire, c'est bon, le danger est passé, reprenez vos occupations.
Ça donne des craques, des hocs, des ou, des booms.
C'est ça.
Avec une vraie syntaxe,
c'est quelque chose d'assez incroyable. Alors, ça a été découvert chez des cercopithèques qui vivent dans les arbres, donc dans la canopée, et naturellement, dans la canopée, on ne peut pas utiliser une autre forme de communication que le son. Les singes ne se voient pas, ils ne peuvent pas communiquer par signes, ils ne peuvent pas communiquer par gestes ni par le regard. Donc ils doivent faire confiance au son, aux indications du congénère, elles doivent être extrêmement précises pour pouvoir lutter efficacement contre les prédateurs.
Loïc Bolache, est-ce que vous pouvez nous raconter aussi les vocalises chantées des gibbons à main blanche de Thaïlande?
Alors,
c'est merveilleux.
Oui, c'est merveilleux, puisqu'on va de la même manière se rapprocher un peu des travaux sur les sarcopithèques, sauf que ça donne des vocalises chantées cette fois-ci. Donc ça nous émerveille d'autant plus qu'il y a une sorte d'aspect poétique au langage, comme si en fait ce langage était les prémices du chant qu'on va développer chez l'humain plus tard.
Que se racontent ces gibbons? Qu'est-ce qu'on en sait?
On en sait ce qu'ils veulent bien nous dire, c'est-à-dire c'est compliqué hein, puisqu'on est sur des langages que l'on est en train de découvrir, à peine de découvrir. Ils se racontent certainement leur position, où ils sont, ce qu'ils sont en train de découvrir, la nourriture qu'ils ont autour d'eux, un danger potentiel, peut-être même des émotions. Ça par contre on a du mal à le savoir pour l'instant.
On voit apparaître des logiciels qui permettent de traduire le langage des animaux et notamment les miaulements de chats. Qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien, je pense que comme des Suédois sont en train d'essayer de le découvrir, utiliser des logiciels ou utiliser l'intelligence artificielle, c'est l'avenir pour décoder ces langages animaux.
On risque d'apprendre des choses formidables, mais peut-être terribles en même temps, qui vont nous faire du mal.
Je suis plutôt optimiste. Je pense pas qu'on va découvrir des choses terribles. On risque de découvrir des choses assez belles, peut-être des discours amoureux ou autre chose. Mais pourquoi pas, peut-être des réflexions philosophiques de certains animaux sur le monde qui les entoure.
Mais plus on en découvre sur les animaux et plus notre façon de les considérer évolue. On ne les traite pas toujours très bien, ces animaux.
On les traite pas toujours très bien et les découvertes sur l'intelligence animale, les émotions, leur langage, nous les rendent plus humains, ce qu'ils ne sont pas du tout. Ou alors, en tout cas, ça rend l'humain peut-être plus animal. Et on se rend compte que
nous sommes des animaux.
Nous sommes des animaux. Voilà, moi, j'en ai aucun doute, mais pour certaines personnes, c'est plus compliqué à accepter. Et en tout cas, pour moi, il n'y a pas de frontière. En tout cas, la frontière est totalement floue entre le monde animal et le monde humain. Et respecter les animaux et respecter les humains, c'est la même démarche.
Langage toujours, le chant des baleines, ça aussi c'est un langage, ce chant est fascinant et on a découvert qu'il pouvait évoluer au fil du temps.
Oui, alors ça c'est une découverte assez intéressante puisqu'on voit en fait un chant qui se modifie au cours du temps. On savait déjà que les baleines avaient, comme pour les abeilles tout à l'heure, avaient des dialectes entre les baleines par exemple d'Atlantique ou les baleines du Pacifique. Elles avaient des différences, on n'était même d'ailleurs pas très certain qu'elles se comprennent toujours très bien. Et on voit que dans le même groupe en fait de baleines, puisque c'est un animal qui vit très longtemps, qu'il y a une évolution en fait des sons qu'il utilise.
Entre sa naissance et sa mort, qui peut intervenir 40 ou 50 ans plus tard.
C'est ça. Donc, alors, est-ce que ça veut dire qu'elle apprend des sons nouveaux? On s'est rendu compte de la capacité des cétacés à apprendre des sons, et entre autres. Par exemple, on sait que les cétacés sont capables d'apprendre les sons d'une autre espèce de cétacé. Des orques ont pu apprendre des sons de dauphins, ou des dauphins apprendre des sons d'orques. Alors, est-ce que les baleines sont capables d'apprendre d'autres sons? Peut-être.
Alors, à propos des dauphins, justement, écoutez ce qu'on racontait à la radio le 5 août 1959. Le docteur Méry parlait de l'intelligence des animaux.
Eh bien, je crois qu'il va falloir réviser toutes les données acquises sur la hiérarchie intellectuelle des animaux. Vous savez que jusqu'à maintenant, il était admis, et bien admis, que les oies, les dindes, les bécasses sont parfaitement idiotes, que les singes sont malins, que les ânes sont bornés et que l'éléphant est parfaitement intelligent. Eh bien, tout cela est remis en question parce que nous avons trop tendance, paraît-il, à prendre l'homme comme étalon spirituel, si j'ose ainsi m'exprimer, des facultés psychiques de tous les êtres vivants de la Terre. Eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur que la psychologie expérimentale démontre un peu plus chaque jour. En bref, savez-vous quel serait aujourd'hui l'animal le plus intelligent du monde ? Eh bien, c'est le dauphin. Oui, depuis quelque temps, le dauphin intrigue le monde scientifique. Il adore accompagner les navires de haute mer. On s'est aperçu que lorsque le dauphin se déplace dans le voisinage immédiat d'un bateau, il ne nage pas. Le professeur Scholander de l'Institut océanographique de Californie explique comment le dauphin réussit ce genre de ski nautique, si j'ose ainsi m'exprimer. Eh bien, le dauphin, dit-il, utilise tout simplement les ondes qui sont créées par l'étrave du navire et il se contente de manœuvrer avec sa queue, pas avec ses nageoires, avec sa queue pour se servir au maximum de cette force de l'eau qui défile le long des flancs du paquebot. Le professeur Scholander ne pense pas, voyez-vous, que cette technique soit liée à l'instinct. Il a observé en effet que les dauphins enseignent parfaitement ce genre de resquillage natatoire à leurs enfants. Ils le font, les dauphins, en communiquant entre eux par des sifflements modulés sur un registre plus riche que celui, paraît-il, de n'importe quel animal.
Voilà, les dauphins qui apprennent à leurs enfants, on peut donc parler de culture animale aussi.
Alors tout à fait, chez les dauphins, là-dessus on n'a aucun doute, puisqu'on voit des groupes de dauphins avoir des comportements très particuliers, propres à ce groupe-là, qu'on ne retrouve pas chez un autre groupe, ce qui est la définition de la culture, hein, un ensemble de comportements ou d'apprentissages ou de traditions propres à un groupe qui n'existe pas chez l'autre. Et il y a une transmission de la mère à l'enfant de ses comportements.
Vous avez entendu ce docteur Méry parler des animaux en 1959, il y a plus de 60 ans. Il disait déjà à l'époque qu'il n'y a pas de hiérarchie intellectuelle. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est intéressant quand on écoute bien son discours, puisqu'il dit qu'il n'y a pas de hiérarchie intellectuelle. Et la phrase d'après, il dit quel est l'animal le plus intelligent.
Oui.
Donc en fait, on a du mal en tant qu'humain à accepter le fait de ne pas mettre une hiérarchie dans le vivant. Je pense que ce qu'il veut dire, et ce qui est aujourd'hui admis, c'est que ça sert à rien de vouloir comparer l'intelligence d'une abeille avec un dauphin, ou l'intelligence d'un dauphin avec un homme, puisqu'on ne vit pas dans le même milieu, on n'a pas les mêmes besoins. Et donc du coup, de toute façon, le dauphin évolue dans un milieu qui nous est totalement inconnu pour nous, ou s'il ne nous est pas inconnu, en tout cas, il nous est difficile d'y vivre très longtemps. Et donc il faut accepter que les animaux ont leur propre intelligence comme un trait adaptatif. Des animaux courent vite, certains sont plus intelligents que d'autres et c'est nécessaire pour eux pour survivre et se reproduire dans leur environnement.
Et puis certains aussi éprouvent de l'empathie et vous allez nous en parler dans un instant. She sells everything, A to Z, anything just to keep her free from the hustle of the streets. She left the church a long time ago. Said they couldn't teach what they did not know. That's when she lost her virginity. Now she's pimping every motto from New York to L.A. Ask her why she do that thing. She says it's always been that way. Jump that jack, you might be next. She said, born to die, born to die. If you ain't living right, no good. Born to die. Better watch out. You get you so high, so high. You know everybody's getting so high. I gotta get my hustle on. She runs 6 streets in Oakland. What you really need to get back to the truth of who we are before we go astray. Go astray. Ask her what the deal is. What the deal is. This is what she'll say. Born to die, born to die. If you ain't living right, you're surely born to die. Look Born to Die, un nouveau titre de Prince.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
La nature est faite d'entraide, d'intelligence de groupe, car on est plus fort à plusieurs, et d'empathie. L'empathie, c'est la sensibilité aux émotions de l'autre. L'empathie, c'est avoir le souci du bien-être de l'autre. Et c'est loin d'être le propre de l'homme.
Certains animaux ont de l'empathie et de plus en plus d'animaux ont de l'empathie, visiblement.
Lesquels ?
Alors, les premières découvertes sur l'empathie, ça ne va pas surprendre beaucoup de monde. C'est des découvertes chez des primates, chez des chimpanzés, des orang-outans, où on va découvrir des phénomènes de réconciliation, de consolation chez des singes. Cela nous a pas vraiment surpris. Par contre, les découvertes plus récentes chez des animaux comme des corvidés, chez le corbeau freux par exemple, l'empathie chez les corbeaux, quelque chose qui nous interpelle beaucoup plus.
Qu'est-ce qu'on en sait de l'empathie chez les corbeaux ?
Alors les corbeaux ont une pratique qui est de se consoler justement. C'est un animal social, ils vivent en groupe et ils vont se quereller régulièrement. Et quand un troisième individu, un observateur, voit deux individus se quereller, il va avoir tendance à aller consoler la victime. Donc le corbeau qui a été un peu victime de son voisin, il va aller le consoler de manière à faire en sorte que celui-ci se sente moins mal.
Le résultat, il le console comment ?
Alors il le console en fait en lui touchant, ils ont des petites mimiques, ils se frottent en fait au niveau de la tête, au niveau du cou, et puis ils se prennent le bec mutuellement en fait. Alors ils se font pas vraiment des bisous, hein, mais ils se serrent en fait le bec, et puis on voit bien que c'est pas du tout des comportements agressifs, c'est vraiment des comportements qui n'existent qu'au moment où un individu a été victime d'une agression par un autre, et un tiers vient le consoler.
Vous dites même que les poissons peuvent avoir des peines de cœur.
Oui, alors les poissons, les peines de cœur, c'est des choses qui ont été découvertes très récemment par un de mes collègues de l'université de Dijon, avec son étudiante en thèse. Et ils ont pu montrer chez un cyclidé, un poisson qui est très utilisé en laboratoire et qui est très pratique puisqu'il est monogame. Donc en fait, il y a un couple mâle-femelle. Et la femelle qui choisit son mâle préféré peut déprimer si on lui enlève en fait son prétendant. Donc si on met avec la femelle le mâle qu'elle préfère, elle va avoir tendance à être optimiste. On le mesure parce qu'elle a une perception de son environnement où sous une boîte grise, elle est persuadée de trouver de la nourriture. Si vous mettez la même boîte grise à la même femelle, mais avec en lui enlevant son prétendant, elle va même pas s'intéresser à la boîte, elle est visiblement totalement déprimée.
C'est assez incroyable parce que on pensait que les poissons ne ressentaient pas la douleur. Or, vous dites que si. On pensait que les poissons n'avaient pas de cerveau. On dit avoir une mémoire de poisson rouge. Et là, vous montrez que finalement, les poissons peuvent avoir des émotions. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir, apparemment.
Oui, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et quand on pense au massacre des poissons lié à la surpêche, au travers en fait de l'homme qu'il fait subir aux poissons, effectivement, ça nous fait beaucoup réfléchir.
Vous dites aussi dans votre dernier livre que les loups sont capables de se consoler.
Alors, les loups sont capables de faire deux choses. Comme les corbeaux, ils vont se consoler, mais ils vont aussi se réconcilier. Et ça, c'est par exemple un phénomène qui n'existe pas chez les corbeaux. Les corbeaux, un agresseur ne va pas aller réconcilier sa victime. C'est un tiers qui le fait. Chez les loups, il y a des deux phénomènes. Lorsque deux loups se battent, vont se quereller pour une affaire de cœur, pour une affaire de nourriture ou de territoire, les deux individus vont juste après essayer de se réconcilier très rapidement, comme s'ils passaient l'éponge en fait sur leur conflit. Et plus ils se réconcilient vite, plus les autres ont tendance à venir les consoler à leur tour.
Mais comment est-ce qu'on voit qu'ils se réconcilient ?
Eh bien, parce que les loups ont des rapports de dominance qui sont très nets. Et si un loup dominant marque sa dominance avec un subordonné, le conflit peut être très net pendant 10 secondes, 20 secondes, ça peut être très violent. Et juste après, 30 secondes après, eh bien, ils vont se lécher le museau, ils vont avoir des signes pour dire c'est bon, c'est fini, maintenant on passe à autre chose, quoi. On pourrait l'interpréter comme ça, en tout cas pour nous.
Ouais, c'est assez émouvant quand on l'interprète comme ça. Encore un exemple d'empathie. Parlez-nous des éléphants.
Alors, les éléphants, ce qui nous trouble, c'est parce que ce sont des individus qui vont vivre très longtemps, largement aussi longtemps que nous. Un éléphant peut vivre 80 ans. Et donc, ils vont tisser, au fil de leur vie, des liens d'amitié avec des membres de leur propre groupe, mais aussi avec des membres des groupes, d'autres groupes d'éléphants. Et on a pu montrer, en tout cas, on a pu filmer et noter des comportements d'éléphantes, généralement de matriarches, proches de leur fin de vie. Généralement s'éloigner du groupe, s'éloigner de leur groupe parce que, comme souvent les animaux quand ils sont en fin de vie s'éloignent et vont mourir dans un coin loin du regard des autres. Et on a pu en Afrique montrer qu'une autre matriarche d'un autre groupe était venue s'approcher de l'individu en train de mourir, essayer de le relever plusieurs fois avec sa trompe et avec ses défenses et rester à côté pendant extrêmement longtemps. Et puis on a aussi les fameux comportements des éléphants qui, lorsqu'ils croisent des squelettes d'éléphants,
des carcasses
et des squelettes qu'ils ont connus, eh bien ils vont s'arrêter et ils vont les manipuler bien plus longtemps qu'ils manipuleraient un squelette d'un autre animal.
Est-ce que ça veut dire qu'on peut commencer à se mettre dans la tête des animaux ?
On peut en tout cas imaginer qu'une partie de nos comportements d'hommes en tant qu'homme animal existe aussi certainement, et parce qu'on a un lien de parenté avec les animaux qui nous entourent. Un vieux lien de parenté, mais un lien de parenté quand même, et certainement qu'il y a des traits comportementaux identiques.
Nous, êtres humains, nous sommes des animaux sociaux, et ces comportements d'empathie, on les observe chez les animaux sociaux. Pourquoi est-ce que les animaux vivent en groupe ?
Les animaux vivent en groupe pour deux raisons. La première, c'est parce que quand on vit en groupe, on peut coopérer, et c'est la raison principale. Vivre en groupe, ça permet de coopérer, ou ça permet de trouver un partenaire pour se reproduire plus facilement, ou ça permet d'autres choses. Et puis l'autre chose qui est intéressante quand on vit en groupe, c'est que ça nous permet d'espionner en fait nos voisins. Donc par exemple, des oiseaux marins qui vivent en groupe dans des colonies, ils peuvent repérer où le voisin a trouvé de la nourriture, dans quelle direction il revient, et ils vont suivre la même direction pour à leur tour trouver de la nourriture. Donc on peut aussi avoir ce qu'on appelle les informations publiques, et espionner les informations publiques et utiliser ces informations publiques pour son propre intérêt.
Donc on utilise les informations des voisins.
On utilise les informations des voisins. Donc quand je dis que vivre en couple, ça permet de coopérer, on pourrait avoir l'impression que je donne une image idéale du groupe. En fait, un groupe, c'est un intérêt, une somme d'intérêts individuels. Mm-hmm. Chaque individu a collectivement intérêt de vivre en groupe.
Est-ce qu'on a établi une relation entre l'intelligence et la taille du cerveau ?
On n'en a pas établi, quoique. Et c'est là où c'est curieux. En fait, au début, on n'en a pas établi parce qu'on a comparé des choux avec des carottes. Et si on compare un cerveau de dauphin avec un cerveau de chat, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, si on compare entre tous les chats, leur cerveau et leur capacité, on commence à trouver une relation. C'est une découverte récente qui a été faite chez des petits carnivores. On montre que la taille du cerveau chez les carnivores mammifères est reliée, leur capacité cognitive est reliée à un certain volume crânien. Mais par contre, effectivement, si vous comparez l'intelligence d'une fourmi, d'une abeille avec l'intelligence d'un chimpanzé, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Mais non, ça n'a rien à voir en fait.
Et les cerveaux, dans ce cas-là, sont constitués de manière, sont physiquement constitués de manière très différente. Et puis, ça évolue dans des environnements très très différents. Donc, il faut quand même qu'il y ait des liens de parenté assez proches pour que la comparaison ait un sens.
Vous parliez des chats. Qu'est-ce que l'on sait de l'intelligence des chats aujourd'hui ? On s'intéresse beaucoup à ce sujet.
L'intelligence des chats, pas particulièrement, mais par l'intermédiaire des chats, on s'intéresse à un autre sujet, ou plutôt un autre sujet nous force à nous intéresser aux chats, c'est celui de la domestication. Et la domestication animale, qui est donc un phénomène où on va avoir une sorte de coopération animal-humain, et des animaux vont se rapprocher de nous, et puis ils vont vivre avec nous, on va coopérer, on va prendre soin d'eux, ils vont prendre soin de nous. Mais en fait, ils vont perdre un certain nombre de facultés, puisque les pressions de sélection sont moins fortes, et un chat d'appartement, qui a été domestiqué il y a 10 000 ans à partir de la sous-espèce de chat sauvage du Moyen-Orient, va perdre certaines facultés, puisqu'il a moins besoin de chasser, il a moins besoin de capturer des proies, il a moins besoin de détecter les prédateurs. Et donc, on s'aperçoit qu'un des syndromes de la domestication, c'est une réduction de la taille du cerveau.
On se rend compte aussi que les animaux évoluent au fil du temps. Vous parliez des chats, mais on peut aussi prendre l'exemple des chiens. Un chien d'il y a 500 ans n'est pas un chien d'aujourd'hui.
Alors voilà, les chiens d'il y a 500 ans ont fortement évolué sous notre pression de domestication et de sélection artificielle. Et on voit apparaître de nouvelles races de chiens régulièrement en fonction de nos propres envies.
Là aussi, leur cerveau diminue à votre avis ?
leur cerveau diminue, et il n'y a pas que leur cerveau qui diminue. En fait, on s'aperçoit que il y a en fait un certain nombre de traits qui sont corrélés. Donc, quand on réduit par exemple la taille d'un chien, il y a d'autres paramètres qui vont être réduits en même temps.
J'étais posé ces fleurs de printemps. Espèces au vent, jardinière empressée, les yeux noyés comme je les hais. Ces murs épais sous mes pas.
Ces murs épais, vous avez reconnu évidemment Jane Birkin.
Les aventuriers sur France Inter.
Loïc Bolache, naturaliste, est un spécialiste des relations entre les organismes et leur environnement. Il concentre actuellement ses recherches sur quelques espèces et il se pose comme nombre de ses confrères deux questions dans le cadre du réchauffement climatique. Qui va survivre et qui va apparaître ?
Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté, c'est l'histoire naturelle des animaux. Je suis arrivé dans le monde de l'écologie scientifique par en fait l'observation depuis petit des animaux dans la nature.
Ce sont vos parents qui vous ont mis sur le chemin ?
Pas particulièrement. Même on vivait à la campagne, mais c'est juste en fait un intérêt qui était plus important pour moi. J'étais plus intéressé de me promener dehors et de courir après les animaux, de dénicher les œufs d'oiseaux que d'apprendre les mathématiques.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites dans votre laboratoire ?
Alors aujourd'hui, je travaille sur différents sujets. J'ai commencé par travailler sur le choix du partenaire sexuel chez des petits crustacés. Et puis, au fil des recherches, au fil des financements que l'on obtient, des personnes que l'on croise dans notre métier, je travaille depuis 10 ans sur un programme de recherche en Arctique, au Groenland, en Sibérie principalement, où on étudie, entre autres, l'effet du réchauffement climatique sur les communautés de vertébrés arctiques.
Quels sont ces vertébrés arctiques ?
Alors, ces vertébrés qu'on étudie, ce sont en tant que mammifères principalement le renard polaire ou le renard arctique. On étudie les proies du renard polaire, c'est-à-dire des petits oiseaux, des limicoles, des petits oiseaux migrateurs qui vont aller se reproduire en Arctique et qui vont pouvoir faire des milliers de kilomètres pour passer l'hiver dans les régions chaudes. Et puis un troisième larron qui est le lemming.
Dites-en nous un peu plus, vous n'êtes pas tout seul sur ces recherches, c'est une coopération internationale. Qu'est-ce que vous recherchez véritablement à comprendre ?
Alors depuis une dizaine d'années, on s'intéresse particulièrement à l'évolution de certains traits comportementaux chez des animaux. Et puis on s'aperçoit que par exemple nos petits oiseaux ont deux stratégies de reproduction. On a des oiseaux qu'on appelle uniparentaux, où un seul adulte s'occupe des jeunes, va couver en fait les œufs, va s'occuper des jeunes, et des animaux biparentaux, des oiseaux biparentaux, où les deux parents participent à l'éducation. Et pour comprendre l'effet du réchauffement climatique sur ces deux stratégies, on passe par des relations internationales, alors avec des chercheurs russes ou canadiens, et puis on passe aussi par l'expertise du groupe de recherche en écologie arctique qu'on appelle le GREA, qui est en fait une association, mais qui travaille depuis 20 ans. Je pense en particulier à Olivier Guigue, qui co-dirige le projet avec moi, et à Brigitte Sabar. Et ces personnes, en fait, font partie des meilleurs experts français de l'écologie arctique, et on peut, comme ceci, prévoir, en tout cas on essaie de prévoir quelle sera la meilleure stratégie face au réchauffement climatique. Est-ce que mieux vaut être tout seul pour élever ces jeunes ou est-ce qu'il faut être deux ?
Donc ça fait partie des questions que vous posez.
Oui, parce que quand on s'intéresse à l'impact du réchauffement climatique sur la biodiversité, on peut aussi se poser la question de l'impact du réchauffement climatique sur la diversité des comportements qui vont survivre.
Et quelles sont les études que vous menez sur les renards ?
Alors, sur les renards, c'est la même chose. On s'intéresse aux renards parce qu'ils sont des prédateurs des oiseaux. Et on leur pose, en fait, des petits colliers émetteurs qui nous permettent de leur suivre. Et, entre autres, on a accès à une boîte noire, c'est-à-dire, durant la période hivernale, dans le Grand Nord, on peut suivre, en fait, les renards et voir, en fait, où est-ce qu'ils vont aller chercher de la nourriture pendant cette période qui est très compliquée pour eux. Et on s'aperçoit que des renards font des distances incroyables. Des renards ont des comportements très très différents des autres. En fait, on a accès à la variabilité des comportements des renards, presque à la variabilité de leur goût alimentaire. Certains préfèrent peut-être manger du lemming, d'autres vont peut-être préférer manger de l'oiseau. En tout cas, c'est une boîte noire qu'on est en train de découvrir.
Donc, le réchauffement climatique les fait changer de comportement ?
Partiellement, le réchauffement climatique modifie donc ce qu'on appelle les conditions abiotiques, le régime des températures et le régime de la pluie. Et naturellement, les oiseaux vont devoir réagir très vite. Et si les oiseaux réagissent très vite, leurs prédateurs, les renards aussi. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des phénomènes de cascade. Si on modifie un paramètre, eh bien c'est l'ensemble en fait du château de cartes qui risque d'être modifié, voire de s'écrouler.
Changement climatique, perte de la biodiversité, on n'arrête pas de parler de ces sujets. Vous êtes naturaliste, évolutionniste, vous vous intéressez de très près au monde animal. Qu'est-ce que vous dites de tout ça ? Qu'est-ce que vous avez au fond de vous ?
Alors, je suis partagé, je suis coupé en deux. J'ai une partie de moi qui pourrait déprimer par moment, puisque on a quand même régulièrement des alertes sur la perte de la biodiversité au niveau mondial. Si on prend par exemple un exemple, celui de l'Afrique, quand on pense qu'on a été alerté des menaces sur les éléphants dès la fin des années 1800. En 1900, la Société des Amis de l'éléphant s'intéressait déjà en fait à ces questions. Et donc on s'aperçoit en fait que l'humain met un temps fou à réagir, voire à la limite s'en moque, ou alors ne comprend pas bien ce qui est en jeu. Et le réchauffement climatique aujourd'hui montre deux phénomènes, une accélération de la perte de biodiversité et puis surtout des effets sur du très long terme. Même si demain nous changeons nos pratiques, il va encore y avoir une période pendant laquelle on va subir nos mauvaises pratiques que l'on a eues pendant 50 ans ou une centaine d'années. À côté de ça, je suis quand même optimiste parce que si je regarde ma nature en France, eh bien par rapport à moi, jeune naturaliste dans les années 80, eh bien j'ai vu revenir le loup en France qui n'existait plus. J'ai vu revenir s'établir des populations de lynx qui avaient un peu disparu. En Bourgogne, on voit du chamois revenir alors qu'il avait disparu. Donc on voit aussi des espèces animales dont la condition s'améliore. Donc le tableau mondial n'est pas toujours très reluisant et des fois localement, on a malgré tout progressé.
Vous vous posez quand même cette question dans ce contexte de changement climatique, qui va survivre ?
Alors oui, naturellement on se pose la question, mais en tant qu'évolutionniste, on se pose une autre question, c'est qui va apparaître ? Parce qu'en fait, d'un point de vue de l'évolution, il est tout aussi important de préserver ce qui existe que de préserver les possibilités de nouvelles adaptations. Et un facteur du changement global, cette fois-ci, qui nous inquiète potentiellement beaucoup, c'est les phénomènes d'homogénéisation du vivant. Si l'ensemble des écosystèmes se ressemblent, eh bien naturellement, on va perdre beaucoup de biodiversité et on va perdre beaucoup de potentiel adaptatif des espèces qui peuvent apparaître et de la diversité qui peut apparaître. Donc cela, ça nous inquiète aussi beaucoup.
Et la résistance des végétaux et des animaux va être moindre.
La résistance va être moindre, on va perdre en fait des potentiels. Quand on pense aujourd'hui à la disparition des grandes forêts primaires, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, c'est autant d'habitats différents, diversifiés, qui sont en train de disparaître, avec une somme de vivants que nous n'avons pas encore étudiés, que nous ne connaissons pas.
Loïc Bolache, en tant que naturaliste, qu'est-ce que vous aimeriez découvrir dans les années à venir ?
Ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est peut-être d'aller sonder un domaine qui est encore très très mal connu par les scientifiques et par l'humain. Ce sont les fonds marins, les grands fonds marins. On connaît en fait très très peu de choses parce que c'est naturellement très compliqué. C'est plus compliqué d'aller à 10 km sous l'eau que d'aller sur la Lune. Et donc ce monde-là, même s'il est de plus en plus étudié grâce à des robots ou autres, il nous reste malgré tout encore très très inconnu et je pense qu'on a des découvertes fantastiques à faire.
Emmenez-nous dans ces fonds marins tels que vous les imaginez, là où il y a des sources d'eau brûlantes où survivent des organismes mal connus.
Alors ça m'intéresse beaucoup parce que moi j'ai commencé mes travaux de recherche sur une petite crevette, un petit crustacé d'eau douce, mais il a des cousins au milieu marin. Ma crevette, quand je l'étudie dans mes rivières de Bourgogne, elle mesure 1 cm. L'équivalent en milieu marin dans les fosses fait 10 cm. Avec en fait des formes incroyables, des grands piquants qui sont développés comme des armes anti-prédateurs et des couleurs différentes. Et tout ça, c'est effectivement un monde merveilleux à découvrir.
Dans un endroit où il n'y a pas de lumière.
Dans un endroit où il n'y a pas de lumière, dans un endroit où les sources alimentaires sont très rares, où les animaux vivent à un rythme très lent. Et ils doivent vivre, on a certainement des animaux qui doivent vivre des centaines d'années dans ces environnements-là, parce que tout vit au ralenti.
Et là aussi, il doit y avoir de l'intelligence animale.
Il y a certainement de l'intelligence animale.
Comment pensent les animaux de Loïc Bolache est paru chez Humaine Science. Les Saventuriers, une émission réalisée par Stéphanie Texier avec Fanny Leroy. Merci à Stéphanie Place de l'INA pour la documentation et les archives. Et merci à Djoubaka pour la programmation musicale. Cette émission est disponible en podcast, bien sûr, comme toutes celles de cette série estivale consacrée à l'intelligence du vivant. L'intelligence du vivant, c'est d'ailleurs aussi un livre qui est paru chez Flammarion, dans lequel vous pouvez retrouver Loïc Bolache. La semaine prochaine, le monde fabuleux des abeilles avec Julie Carco, une scientifique qui n'hésite pas à leur faire passer des IRM aux abeilles.
Inter.